Messager de la paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de ce 7 heures, on parle crise foncière en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé exhorte les chefs traditionnels à une meilleure gestion afin de préserver la paix. Dans l'actualité nationale, toujours, les déguerpis du district d'Abidjan, un an après, veulent saisir l'Assemblée nationale pour une enquête parlementaire. Et puis sur le continent, clap de fin hier pour la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le bilan de cet événement avec Aoussi Potin. La revue des titres des journaux ivoiriens de ce lundi sera l'affaire de Jean-Mélène Bitti. En toute fin d'édition, dans l'invité de la rédaction, David Silva, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse, analysera les enjeux de la rencontre en Arabie Saoudite entre Washington et Moscou sur la crise russo-ukrainienne. Ce sera tout pour le sommaire. Crise foncière en Côte d'Ivoire en marge de l'inauguration d'un marché de gros dans la commune de Divo. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a exhorté les chefs traditionnels d'user de sagesse coutumière pour régler les problèmes de terre dans leur localité afin de préserver la paix. Un extrait de son adresse aux plus de 450 chefs traditionnels présents vendredi dernier vous est proposé par notre correspondant régional Abel César Cassin.
Le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir, c'est de préserver la paix ici. Vous savez, chez nous en bas, à cause des problèmes de terrain, bon, quelquefois, l'histoire des chefferies, là, ça envoie des palabres. Mais je leur dis, affaire de terrain, là, il faut bien gérer. Pourquoi? Parce que le terrain était là avant nous. Nous tous, là, il n'y a pas un qui peut fabriquer terrain, il n'y en a pas. Nous tous, on va partir, le terrain sera encore là. Donc, mais pourquoi faire palabre à cause des terrains? Quand il y a des problèmes de terrain, on s'assoit. On parle. Il y a un qui dit la vérité, il y a un qui dit demi-vérité, il y a un qui ne dit pas la vérité du tout. Donc entre les trois là, les sages s'asseyent, on mêle les trois choses qu'on a entendues, on mélange, la vérité va sortir toujours. Donc on compte sur vous pour que s'il y a des problèmes de terrain, vous puissiez vous asseoir pour parler fraternellement. Personne ne peut dire que lui, il a fabriqué terrain. Dans certains peuples, quand tu vas mélanger les affaires de terrain, excusez-moi de parler comme ça, mais ça rattrape mal. Donc il faut éviter.
À l'instant, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, qui exhortait les chefs traditionnels à une meilleure gestion de la terre afin de préserver la paix. Et justement, sur cette crise foncière, le PPACI, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, annonce réfléchir et proposer ses solutions. Message de Kone Katinan Justin, président du Conseil stratégique et politique du parti, jeudi dernier, à l'occasion de la 35e tribune du PPACI à Abidjan.
La propriété, notamment immobilière, c'est la première et la dernière chose qui arrive avant la fin de la vie. Beaucoup de mauvaises pratiques s'installent puisque la concurrence est forte et elle devient déloyale. Et donc, trois éléments concourent à ça. La faiblesse, la rareté des parcelles, la concentration de la population face à une rareté donc, des logements donc, des parcelles. Une législation foncière qui est faible, il faudra que nous corrigeons. Et le président a été touché par tout ce scandale qui a tout autour de ça. Et il a convoqué d'urgence le groupe parlementaire pour les envoyer en mission. Pour qu'ils prennent à bras le corps cette question avec d'autres députés, ils puissent se saisir de l'affaire et interpeller le gouvernement pour qu'une solution soit vraiment trouvée à ce problème qui est crucial.
Docteur Kone Katinan Justin, président du Conseil stratégique et politique du Parti des Peuples, du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, il était au micro de Ismaël Ongo. Autre sujet à présent, on parle du rôle de la religion dans la vie sociopolitique et la gestion des conflits avec la Fondation Konrad Adenauer qui a organisé la 8e édition de son colloque sur le dialogue interreligieux autour du thème « Religion et politique en période de conflit » tenu les 25 et 26 février. Cet atelier, initié en partenariat avec le Centre de recherche politique d'Abidjan et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, a réuni guides religieux, acteurs de la société civile et politique dans un hôtel au plateau pour réfléchir sur le sujet. On en sait plus avec Didier Blé.
Ce colloque visait à promouvoir la réflexion, l'échange d'idées sur la manière dont religion et politique interagissent en période de conflit. Docteur Flomoké César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan.
Le conflit est souvent le fait de deux facteurs essentiels. Le pouvoir et la raréfaction des biens matériels et immatériels. En contexte de conflit, quelles relations religion et politique entretiennent-elles?
Miss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a insisté sur la mission fondamentale de la religion et souhaite l'implication de tous.
Le dialogue interreligieux est essentiel dans notre monde contemporain où les défis de la division et des conflits demeurent pressants. Et il est de notre devoir d'encourager l'échange et la compréhension, le respect mutuel.
Premier panel, fondement théologique, comment les religions appréhendent-elles leur rapport à la politique? Père Dominique Agbalenio en ligne depuis Cotonou.
La foi illumine les chrétiens dans leur vie et dans leur engagement sociopolitique en leur offrant des critères nouveaux d'intelligence et d'action.
Rôle, responsabilité des guides religieux dans un contexte électoral, intitulé du deuxième panel, Imam Amadou Bamba de la communauté musulmane.
Nous intervenons dans les couples pour qu'il y ait plus de cohésion, d'harmonie et aussi au niveau des communautés, dans nos quartiers, dans nos cités.
Le panel 3 a été un partage d'expériences religieuses sur la gestion des conflits à caractère politique. La plupart des intervenants ont exhorté les politiciens à opter pour la courtoisie dans le discours.
Un an après l'épisode des déguerpissements du district autonome d'Abidjan, déguerpissement qui a vu plusieurs familles à la rue, des coalisés, des victimes entendent saisir l'Assemblée nationale en vue d'une enquête parlementaire à l'effet de faire toute la lumière sur la question. Et sur cette démarche, écoutons les explications de Pulchérique Balé. Elle est la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne.
Il n'est pas normal que les députés restent muets face à cette situation. Il y a une trentaine de sites qui ont été affectés. Il y a au moins 20 000 ménages qui ont été affectés. Et quand on sait que dans un ménage en Côte d'Ivoire, la taille moyenne est de 5 personnes, les 20 000 là nous donnent au moins 100 000 personnes affectées. Et si ces 20 000 ménages, il y a au moins 3 000 ménages propriétaires de leur maison. Et il y a eu des scolarités interrompues. C'est vraiment très grave ce qui s'est passé avec ces déguerpissements.
Madame Pulchérique Balé, hormis cet appel à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, votre ONG, qu'entend-elle faire dans les jours à venir?
Avant de dire ce qu'on a fait dans les jours à venir, il faut dire que ce qu'on a déjà fait, c'est de rassembler tous les groupes de déguerpis pour les aider à lutter pour leurs droits. On les a organisés, on les suit au quotidien dans leurs démarches. On est en train de finaliser un rapport qui va présenter la situation détaillée de chaque groupe. On a contacté la cellule gouvernementale interministérielle qui est censée faire le suivi de ces déguerpissements. Jusqu'aujourd'hui, le président de la cellule ne nous a pas encore reçu.
Vous écoutiez Pulchérique Balé, elle est la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne. Elle a été jointe par Soro Adams. Et puis l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, initie depuis 2020 un appel à projet à l'attention de la femme dans les 93 États membres. Elle octroie des subventions allant de 9 à 65 millions de francs CFA pour les projets sélectionnés. Et donc pour informer et outiller la junte féminine ivoirienne, la commission de la francophonie a organisé un atelier à son siège à Abidjan, Cocody. Là-dessus, écoutons Bernice Nguessan, la secrétaire générale de la commission nationale de la francophonie.
Nous mettons à la disposition des Ivoiriens les opportunités que nous pouvons trouver au niveau de la francophonie. Depuis 2020, il y a eu le Covid, l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place un fonds de solidarité à l'intention des femmes. Et chaque année, il y a des appels à projets qui sont lancées à partir du mois de mars. Et on donne la possibilité aux femmes dans les 93 pays membres de la francophonie de proposer des projets pour obtenir des subventions pour pouvoir s'autonomiser. Les montants de subventions, ça va, on va dire, de 9 millions à 65 millions de francs CFA. Donc, on va dire que 65 millions auxquels vous aspirez, le projet ne va pas payer entièrement les 65 millions. Le projet va vous donner 80% des 65 millions et vous, vous devez donner les 20% qui restent comme votre contribution à la réalisation du projet que vous soumettez.
En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il existe déjà des projets qui ont été financés par l'OIF? S'il y a des exemples.
Oui, il y en a déjà en Côte d'Ivoire. Moi, des femmes mariées de Soubré, il y a des jeunes filles en situation de vulnérabilité au niveau d'Adjamé qui en ont bénéficié.
Nous écoutions Bernice Nguessan, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. Sur le continent, les projecteurs se sont éteints samedi dernier sur la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'est le long métrage Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Danny Kouyaté qui a remporté l'étalon d'or de Yenega. En termes de bilan de cette 29e édition de ce FESPACO, nous vous proposons d'écouter son délégué général Alex Moussa Sawadogo.
Plus de 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et près de 2 000 journalistes. À cela s'ajoutent 95 directeurs de festivals de films. En somme, cette édition a enregistré la participation de 53 pays venus des quatre coins du monde. 1351 films soumis à l'appréciation du comité de sélection, parmi lesquels 235 ont été retenus pour figurer dans les différentes catégories de compétition. 625 projections organisées sur 12 sites durant 8 jours de festivités intenses. 60 rencontres professionnelles, masterclass, colloques et conférences. Une initiative dénommée FESPACO hors les murs ayant étendu la magie du cinéma à 5 chefs-lieux de province, 5 communes rurales et de la province du Kadiogo, 5 quartiers de la ville de Ouagadougou et à l'hôpital militaire Capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé, la Misana.
Vous écoutiez Alex Moussa Sawadogo, délégué général de la 29e édition du FESPACO qui en dressait le bilan. À noter que les productions ivoiriennes ont remporté quelques prix, notamment le réalisateur Alex Ogou a décroché le prestigieux premier prix avec sa série Niabla et Or Blanc, réalisé par Johanna Bauer-Dilolo, s'est classé en deuxième position. Sans transition, nous retrouvons la revue des titres proposés aujourd'hui par Jean-Mélène Bitti. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Linda, bonjour à tous. À 7 mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain, les principaux partis politiques investissent le terrain, comme le montre notre revue des titres de ce jour. Laurent Gbagbo était en meeting ce samedi à Cocody, le Bélier intrépide, et le quotidien d'Abidjan rapporte en une ses propos marquants. Si nous voulons éviter des bagarres, il faut une loi liée au foncier. Le temps lui revient sur les deux propositions de Gbagbo pour résoudre le problème foncier qualifié de robuste contre les abus et les crises sur le foncier urbain. Selon la voix originale. Soir Info, quant à lui, s'intéresse également à un nouvel appel lancé par Gbagbo à Cocody en gré, tandis que l'expression choisit de mettre en lumière les incohérences de son discours. Dans un autre registre, une vague d'adhésion est annoncée au RHDP à Issia à quelques mois des élections. À ce sujet, le rassemblement titre, le RHDP opère une percée énorme à Issia. Le Matin annonce quant à lui que 2014 de l'opposition rejoignent le RHDP, un chiffre que l'avenir précise indiquant qu'ils proviennent principalement du PPACI et du PDCI. Le RHDP, par la voix du ministre de la Communication Amadou Koulibaly, a également effectué une sortie musclée contre le PDCI depuis Issia. Le Matin s'exclame, hélas, le PDCI ressuscite à l'ivoirité, pendant qu'Amadou Koulibaly estime que le PDCI est dangereux pour la cohésion nationale. Le Nouveau Réveil ne tarde pas à réagir sur la sortie d'Amadou Koulibaly, déclarant que selon le ministre, le PDCI est devenu un parti xénophobe. Rappelant à tous que le porte-parole du gouvernement n'a pas entendu la sortie de Serredo, mais a plutôt entendu la sortie de Véronique Aka. Autre chose que la politique, en matière d'infrastructure, la fermeture nocturne du pont Alassane Ouattara annoncé par le ministre Amédée Kouakou fait également l'actualité de ce lundi. Le Jour Plus rapporte que le pont sera fermé pendant 30 jours pour des travaux d'entretien, une information confirmée par le Patriote et plusieurs autres journaux. Pour terminer, un fait divers révélé par Soir Info qui soulève des inquiétudes. Un écolier a été atrocement tué dans une plantation à Ayenoa, dans le département d'Aboisseau. Voici l'ensemble de l'actualité traitée par vos journaux du jour. Merci de votre attention et bonne lecture à tous.
Merci à vous Jean-Mélène Bitti pour cette revue des titres des journaux de ce lundi. Nous pourrons vous retrouver dans l'édition de 8h pour le même exercice. Pour clore cette édition, l'invité de la rédaction, il s'agit aujourd'hui de David Sylvain, professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse. Il analyse les enjeux de la récente rencontre en Arabie Saoudite entre Washington et Moscou sur la crise russo-ukrainienne. David Sylvain répond aux questions de Ismaël Ango.
Monsieur David Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour.
Les Américains et les Russes se sont rencontrés après des relations froides. Est-ce que cette relation change vraiment quelque chose pour la guerre en Ukraine?
Le président Trump voudrait vraiment arriver à un arrangement avec Monsieur Poutine derrière le dos des Ukrainiens. Ce qu'il voudrait faire serait effectivement de promettre à Monsieur Poutine qu'il pourrait garder le contrôle presque de tous les territoires en Ukraine qu'il avait déjà arrachés pendant ces quelques dernières années de guerre, et qu'il y aurait des promesses à propos d'une action de la part des Ukrainiens à l'égard de l'OTAN. Ils voudraient probablement envoyer des soldats européens pour servir comme des garde-fous du côté, etc. Évidemment, la question, c'est savoir si, d'une part, Poutine serait satisfait avec seulement, entre guillemets, le territoire qu'il avait déjà gagné, et si Trump peut donc arriver à convaincre les Européennes et les Ukrainiennes faire semblable, et ça, je le doute fortement.
Le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'était pas content qu'on parle de son pays sans l'inviter. Que pensez-vous de sa réaction?
C'est complètement raisonnable. Après tous les morts et les blessés et tous les territoires détruits de la part des Ukrainiens, il ne peut pas participer. C'est quelque chose qui rappelle donc aux pires années de colonialisme au fin 19e, début 20e siècle. Ça ne va pas arriver à quelque chose.
Est-ce que l'Europe a encore son mot à dire dans la résolution de cette crise?
Je crois que l'Union européenne a certainement à dire. Normalement, on imaginerait que l'OTAN serait donc l'interlocuteur classique, parce qu'il s'agit d'un problème militaire, de sécurité, etc. Mais étant donné que les États-Unis sont membres très importants de l'OTAN, eux, ils ont un droit de veto. Ce qui va se passer probablement, c'est que donc l'axe et l'emphase de l'aide européenne envers l'Ukraine va changer et être centré à l'avenir de côté l'Union européenne. Il faut ajouter à cet égard-là que déjà on a vu que, par exemple, que l'Union européenne a élargi encore une fois donc les sanctions contre la Russie. Et je crois qu'au fur et à mesure, l'Union européenne serait de plus en plus marquée pour participer dans ce combat aux côtés des Ukrainiens.
Pourquoi l'Union européenne a-t-elle décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie?
Eux, ils considèrent que la Russie pose une menace vraiment réelle et presque imminente aux Européens. Il faut se rappeler que donc Poutine, effectivement, a regretté publiquement la désintégration de l'ancienne Union soviétique. Il a dit que c'était, et je cite, « la catastrophe la plus grande géopolitique de tout le XXe siècle, y compris, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale ». Ça veut dire que si on habite, par exemple, en Estonie, en Lituanie, etc., ou, par exemple, si on habite en Suède ou en Finlande ou ailleurs, la Russie, maintenant, pose vraiment comme une menace, parce qu'il faut se rappeler que jusqu'il y a quelques années, il n'y avait jamais eu, depuis 1945, des invasions des territoires par une force armée en Europe.
Parmi les sanctions de l'Union européenne envers la Russie, l'interdiction d'importer de l'aluminium, des mesures aussi visant à limiter les exportations de pétrole russe. Comment cela peut affecter les relations commerciales entre l'Union européenne et la Russie?
Disons, les relations entre l'Union européenne et la Russie sont vraiment très mauvaises pour l'instant et ça va probablement empirer encore parce que vous avez lu probablement que récemment, les Russes sont soupçonnés d'avoir essayé de couper les câbles qui relient certains pays aux d'autres pays, donc les câbles informatiques qui transmettent des données d'ordinateurs, etc.
La Russie est d'accord pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Pourquoi cette différence?
Ils pensent que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, dans ce cas-là, il serait protégé contre eux. Mais il faut se rappeler également que derrière tout cela, c'est le fait que selon Poutine et certains de ses conseillers, l'Ukraine n'est pas même en état. C'est quelque chose qui est fictif en quelque sorte. Donc ils ont dit que d'une part, c'est un pays fantaisiste et d'autre part, que c'est truffé avec des nazis, etc. Effectivement, on a là donc la militarisation de la nostalgie pour l'ancien empire colonial soviétique. Il est considéré que c'est une attaque contre leur notion de la démocratie en Europe de l'Ouest et l'idée de la démocratie libérale en quelque sorte. Déjà, on a vu énormément des tentatives de la part des Russes à s'immiscer dans les élections européennes, etc., comme ils ont déjà fait aux États-Unis à plusieurs élections.
Monsieur David Da Silva, merci.
Merci à vous.
À l'instant, l'invité de la rédaction, David Sylvain, professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse. Il était interrogé par Ismaël Ango. C'est la fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Crise foncière en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé exhorte les chefs traditionnels à une meilleure gestion de la terre afin de préserver la paix. Et puis dans l'actualité nationale, toujours, les déguerpis du district d'Abidjan, un an après, veulent saisir l'Assemblée nationale pour une enquête parlementaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la Paix.
À Daloa, 91.4 MHz.